journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à toutes et tous. L'exécutif hongkongais suspend le projet de loi autorisant des extraditions vers la Chine continentale. Trop d'agitation dans l'ancienne colonie britannique. À quelques mois des célébrations des 70 ans de la fondation de la Chine communiste. Correspondance de Dominique André et décryptage dans ce journal. Également au sommaire, l'ouverture en Algérie d'une conférence nationale pour une sortie de crise. La visite en Pologne de l'expert du Vatican en matière de lutte contre la pédophilie qui n'aura pas pris soin de rencontrer des victimes. Et puis en cette journée mondiale des réfugiés, la bulle économique qui s'intéresse à leur impact économique dans les pays d'Europe. Ils avaient lancé un appel à manifester demain et les opposants au projet de loi pro-Pékin, suspendu depuis peu, donc avaient reçu le soutien d'une confédération syndicale. Alors, le régime chinois, qui ne goûte que très peu aux bruyantes contestations, alors plutôt que de faire face à des défilés massifs, a donc suspendu ce texte. Il fallait désamorcer un mouvement bien embarrassant à quelques semaines des 70 ans du régime. Ce matin, Dominique André, le gouvernement de Hong Kong s'est donc engagé à suspendre le texte de la discorde et ses détracteurs, eux, maintiennent leur appel à manifester.
Sous pression, la chef du gouvernement de Hong Kong suspend le projet de loi. Elle ne donne aucun échéancier pour réintroduire le texte qui a plongé l'ancienne colonie britannique dans le chaos. « J'ai pris la décision rapidement », indique Carrie Lam, qui a reconnu avoir sous-estimé l'opposition de la rue. Un Hongkongais sur sept a manifesté dimanche dernier et des violences inédites ont secoué Hong Kong mercredi. La chef du gouvernement local, pro-Pékin, veut engager un travail de communication et écouter maintenant tous les points de vue de la société. L'opposition a rassemblé une frange très large allant des activistes démocrates aux hommes d'affaires, aux avocats, aux étudiants et aux maires de Hong Kong qui s'inquiètent de l'avenir pour leurs enfants. C'est donc un recul pour Carrie Lam et pour Pékin, mais le projet n'est pas enterré. La chef de l'exécutif a répété qu'une loi juridique était nécessaire pour que Hong Kong ne devienne pas, dit-elle, un refuge pour criminels. La manifestation de demain permettra de connaître la réponse du peuple hongkongais. Le geste de Carrie Lam sera-t-il suffisant? Les opposants demandaient jusque-là un retrait du projet de loi.
Trop d'agitation dans l'ancienne colonie britannique à quelques mois des célébrations. C'est en octobre des 70 ans de la fondation de la Chine communiste. Un quasi-soulèvement susceptible de ternir l'image de Xi Jinping. Cyprien Pézeril a sollicité Jean-Pierre Cabestan, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'Université Baptiste de Hong Kong.
Le rôle de Pékin a été d'abord de soutenir le projet jusqu'au dernier moment. Il l'a soutenu jusqu'à mercredi. Et mercredi, les choses ont mal tourné parce que vous avez eu des violences, il y a eu des affrontements qui ont montré, je crois, surtout la détermination de certains segments de la société, en particulier des jeunes, à mettre la pression sur le gouvernement. Ils ont fait le siège du Parlement. Certains voulaient y pénétrer. Ils ne sont pas parvenus. Mais enfin, il y a eu des violences, 80 blessés. Donc, si vous voulez, on est arrivé à un niveau de violence et de confrontation au sein de la société qui devenait ingérable. Et donc, c'est pour ces raisons que Pékin et Hong Kong se sont mis d'accord pour suspendre le projet. Carrie Lam ne pouvait pas le suspendre sans l'aval de Pékin. Elle est plutôt du genre têtue, donc on peut supposer que c'est Pékin qui l'a persuadé, l'a un peu forcé à suspendre un projet dont il était l'initiateur.
Justement, quel peut être l'impact de cette suspension sur les célébrations en octobre des 70 ans de la fondation de la Chine communiste?
Je crois que Xi Jinping espère qu'il n'aura aucun impact. Je pense qu'il y aura une influence à Hong Kong parce que les gens s'identifient, on voit bien, de moins en moins à la Chine populaire ici, même s'ils en font partie formellement. Si vous voulez, le niveau de confiance qui existe entre les Hongkongais et le gouvernement central s'est détérioré au cours des 22 ans qui ont suivi la rétrocession en 97 au lieu de s'améliorer. Et puis aussi, ce qui est inquiétant pour Pékin, c'est que la légitimité des autorités de Hong Kong aux yeux des Hongkongais est devenue beaucoup plus problématique, aléatoire, dans le sens où ce sont des autorités qui ne sont pas élues. Le Parlement est seulement à moitié démocratiquement élu. Et donc, il y a quand même un véritable problème de légitimité à côté de ce problème de confiance que j'évoquais tout à l'heure.
Jean-Pierre Cabestan, directeur de recherche au CNRS. Aucune accalmie dans le nord-ouest syrien. Au moins 35 combattants, dont 26 soldats de l'armée régulière, ont été tués dans des bombardements menés depuis l'aube par les aviations syriennes et russes dans le nord de la province de Hama. 9 morts dans les rangs des groupes rebelles djihadistes. Au terme d'une semaine riche en arrestations et incarcérations de caciques du régime et hommes d'affaires aux rentes douteuses, la société civile algérienne se réunit aujourd'hui en pleine incertitude constitutionnelle pour charpenter une transition via une conférence nationale pour une sortie de crise. Laïla Berato est à Alger.
C'est une réunion inédite par la diversité des idéologies qui y sont rassemblées. Des associations de droits de l'homme aux syndicats conservateurs en passant par les artistes, les groupes féministes et les groupes contre l'emploi précaire. L'objectif aujourd'hui est de discuter d'une déclaration commune à propos de la sortie de crise, dans le but d'arriver plus tard à des discussions avec les autorités. Il y a donc trois grands groupes dans cette réunion qui ont déjà tenu des discussions au fil des dernières semaines, chacun de leur côté. L'une des principales divergences était sur la modalité de sortie de crise. Faut-il aller vers une présidentielle ou vers un changement de constitution? Il semble que les différents groupes aient réussi à se mettre d'accord. Chaque groupe a par ailleurs des conditions prérequises avant de lancer des discussions avec le pouvoir, et c'est de ces conditions dont il va falloir débattre dans les semaines à venir. La réunion vient de débuter et les participants ont déjà déclaré qu'ils ne se sentaient pas représentants du mouvement, même s'ils en faisaient partie. Car aujourd'hui, les Algériens sont très réticents à ce que quelqu'un les représente. Cette initiative d'une petite partie de la société civile n'est pas la seule à être lancée, mais elle devrait être un premier pas important dans l'union d'une société civile algérienne qui est aujourd'hui très divisée.
Il est 12h36, vous écoutez le journal de France Culture. L'expert du Vatican en matière de lutte contre la pédophilie dans l'Église est en visite en Pologne. Une visite qui fait polémique dans un pays heurté depuis plusieurs semaines par la sortie d'un film qui donne la parole aux victimes de prêtres et montre à quel point la hiérarchie n'a pas réagi. L'archevêque de Malte, Mgr Cicluna, a bien rencontré les évêques polonais, mais pas les victimes. À Vaubje, Damien Simonard.
Si les victimes de prêtres espéraient des décisions personnelles au sein de l'épiscopat polonais, elles ont rapidement déchanté. Mgr Cicluna ne démissionnera pas d'évêque, comme il l'avait fait au Chili l'année dernière, dans un contexte similaire.
Je n'ai pas de mission du Saint-Père. Je suis là parce que j'ai été invité par les évêques polonais il y a 2 ans.
Passer de la parole aux actes pour protéger les enfants, le message du Vatican à l'Église polonaise est clair. Mgr Cicluna défend également la lettre apostolique du pape François qui oblige tous les religieux à signaler rapidement des cas d'abus sexuels.
Au niveau des diocèses et des paroisses, les gens doivent savoir à qui s'adresser pour exprimer leurs préoccupations et transmettre ce qu'ils veulent communiquer.
En février, l'association d'aide aux victimes de prêtres pédophiles, N'ayez pas peur, a remis au pape François un rapport détaillé avec le nom de plusieurs dizaines d'évêques polonais impliqués dans des scandales sexuels. Mgr Cicluna affirme ne pas l'avoir vu, mais la porte-parole de l'association, Agata Diduszko-Zeglewska, n'y croit pas.
Nous avions quasiment la certitude qu'il mentionnerait le rapport, mais l'archevêque fait semblant que cette affaire n'existe pas.
Interdit d'entrer dans la salle de presse, Marek Mielewczyk, qui a été violé à de nombreuses reprises par un prêtre dans son enfance, est très ému.
Je voudrais juste les rencontrer et voir s'ils sont capables de faire quoi que ce soit pour moi. Moi, je leur tends la main et eux, ils me donnent un coup de pied.
Une impuissance qui dure depuis plusieurs dizaines d'années pour certaines victimes.
Au Chili, les travailleurs de la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde ont entamé hier une grève illimitée. Leur syndicat demande une meilleure couverture santé pour ces mineurs de Codelco, premier producteur mondial, dont certains souffrent de maladies chroniques à cause de leur travail. En mai 2000, l'armée israélienne quittait le sud-Liban après 22 ans d'occupation et plusieurs milliers de Libanais qui collaboraient avec cette armée partaient s'installer en terre israélienne. 19 ans après, le collectif baptisé « C'est leur droit de rentrer » demande une amnistie et la fin des poursuites judiciaires pour 4000 Libanais qui communiquent nécessairement avec leurs proches en Israël. Aujourd'hui, un message envoyé depuis le Liban en Israël peut en effet valoir une comparution devant un tribunal militaire. C'est un reportage dans le sud du Liban à la frontière israélienne de Nicolas Feldman.
Ici c'est Ain Abel, c'est un village chrétien.
C'est la frontière. À peu près 10 km.
Du haut d'une colline verdoyante, Pierre Asrouni désigne au loin les maisons israéliennes. Sur les 400 Libanais de son village partis en 2000, un peu moins de la moitié habitent encore dans l'État hébreu. Mais leur envoyer un message peut valoir une convocation devant un tribunal militaire.
C'est Joseph.
Et c'est ce qui arrive à Joseph El Har. Il a 38 ans. Sa famille est installée à Nahariya, sur la côte israélienne.
Mon père est mort il y a 6 mois. On a informé les autorités libanaises qu'il avait eu un accident et donc qu'on allait
communiqué avec ma famille sur WhatsApp. 15 jours après, on a fait rapatrier son corps avec l'aide du CICR et on l'a enterré ici à Ain Ebel.
Et quelques semaines après les funérailles, Joseph reçoit pourtant une convocation des autorités libanaises.
La raison, c'est parce que j'ai contacté ma famille en Israël. Si ma mère m'appelle aujourd'hui, je vais lui dire quoi ? Pourquoi tu m'appelles ? Quoi qu'il arrive, j'ai besoin de lui parler. Le gouvernement libanais doit résoudre cette question. Ça fait 20 ans, ça suffit.
En septembre, Joseph El Har comparaîtra pour contact avec l'ennemi. Il risque en théorie jusqu'à 3 ans de prison. Mais dans les faits, le tribunal militaire répond que ses poursuites à l'encontre des personnes en lien avec leurs proches en Israël sont systématiquement abandonnées. Et sur les quelques dizaines de cas jugés depuis le début de l'année, tous ont été classés sans suite.
À Paris, départ il y a une demi-heure de la manifestation des Gilets jaunes de la place de la Bastille avec pour lieu de dispersion la place du Maréchal Juin dans le 17e arrondissement. Il est l'heure de la bulle économique avec en cette journée mondiale des réfugiés, une bulle économique signée Anne-Laure Chouin qui s'intéresse aujourd'hui à leur impact économique dans les pays d'Europe.
Dans un récent tweet, la présidente du Rassemblement national se scandalisait de lire que les comptes de la sécurité sociale allaient être sérieusement grevés par les mesures destinées aux gilets jaunes. Incroyable de lire ça, écrit Marine Le Pen, et l'AME, ça ne creuse pas le trou de la sécu ? L'AME, on le rappelle, c'est l'aide médicale d'État proposée aux étrangers en situation irrégulière pour leur permettre d'accéder aux soins et abonder, non pas par la sécurité sociale, mais par le budget de l'État. Une erreur rapidement pointée du doigt par des députés qui ont ironiquement proposé à Marine Le Pen de s'intéresser de plus près à ces deux budgets, discutés, ça tombe bien, tous les ans au Parlement. Mais au-delà de cette question démagogique posée au détour d'un tweet, la présidente du parti d'extrême droite réutilise l'argument de l'impact économique trop lourd qu'auraient les réfugiés sur les finances publiques de la France. Argument remis en cause par trois économistes du CNRS dont les travaux ont été publiés il y a un an pile par la revue Science. Hippolyte Dalbis, Ekram Bouptam et Draman Koulibaly ont appliqué au flux migratoire des réfugiés les méthodes traditionnellement utilisées pour mesurer l'impact macroéconomique des politiques structurelles. Ils l'ont fait pour 15 pays européens depuis 1985 jusqu'en 2015. Des données statistiques qui mesurent l'effet sur les finances publiques, le PIB par habitant et le taux de chômage de l'arrivée de réfugiés. On parle ici de personnes ayant fait une demande d'asile et présente sur le territoire le temps de l'instruction de cette demande, temps pendant lequel ils n'ont pas le droit de travailler. Soit pour la France, une moyenne de 20 000 entrées sur le territoire par an environ, contre 200 000 migrations de travail légales. Au total, 30 ans de données statistiques qui font apparaître que les dépenses publiques causées par ces réfugiés sont plus que compensées par les gains économiques induits par ces mêmes réfugiés. Les auteurs font ainsi valoir que les chocs d'immigration, comme a pu en connaître l'Europe au moment de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, et dont le pic a été atteint en 2015, ces chocs ont eu des effets positifs. Ils ont augmenté le PIB par habitant, ont réduit le taux de chômage et amélioré les finances publiques. S'il est vrai qu'ils induisent des coûts supplémentaires pour les accueillir, les accompagner, les soigner, le cas échéant, ce qu'ils rapportent en revenus supplémentaires, notamment fiscaux, compense souvent largement leurs coûts. Un impact positif qui dure parfois de 3 à 7 ans après leur arrivée, selon les auteurs de l'étude, avec 2 ans après leur arrivée, une augmentation du PIB par tête de 0,32% et un taux de chômage qui diminue de 0,14%. Les auteurs, mais aussi d'autres chercheurs dans d'autres études qui vont dans le même sens, font remarquer que plus les États investissent tôt dans l'accueil, la formation et l'accompagnement des réfugiés, meilleure sera leur intégration et leurs bénéfices économiques. Ce qui ressort de cette étude, c'est donc que l'Europe peut tout à fait se permettre d'accueillir ces demandeurs d'asile, notamment parce que leur flux est, quoi qu'on en dise, très limité, comparé par exemple aux afflux de populations réfugiées qu'ont eu à supporter des pays comme la Jordanie ou le Liban. Le Liban, dont les 4 millions d'habitants ont vu affluer 1,5 million de réfugiés syriens. Les conséquences de ce véritable choc d'immigration pour un petit État comme le Liban sont très différentes. Son taux de chômage a augmenté, la pauvreté s'est répandue perdu, notamment à cause d'une plus grande concurrence sur le marché du travail, selon des études menées par le FMI. La croissance a ralenti de façon phénoménale quand la dette du Liban s'est alourdie, elle, à 141% du PIB, à tel point que la communauté internationale s'est engagée à soutenir l'économie libanaise, qui a supporté à elle seule la plus grande partie du flux des réfugiés syriens. Rien que pour cela, constate l'un des auteurs de cette étude du CNRS, l'Europe, qui fournit un quart du PIB mondial, devrait modérer ses discours, souvent alarmistes. En parlant de crise des réfugiés, elle accrédite le fait que leur afflux serait un danger économique, s'exonérant par là d'autres impératifs humanitaires et moraux.
Noyés de misère, en partant d'ici, pour quel paradis?
Ainsi se referme la bulle économique de ce samedi. Quelques mots de la météo de l'après-midi. Le temps est à l'orage sur tout un quart sud-est de la France. Temps nuageux sur l'ensemble du pays. Cette édition a été préparée avec Benjamin Ducy et la technique Emmanuel Morse-Duncan.